Tous ou Rien est une émission entièrement consacrée à explorer le monde de F. Merjanov.
Une personne dont nous ne savons rien, ou presque.
Une vie réduite à quelques lignes, des lieux, Nice et la mer Noire, une date, 1970.
Et aussi quelques mots essentiels. Macédoine, nihilisme, apiculture et rien.
Mais rien de plus.
Si nous ne savons rien de son genre, nous pouvons affirmer son appartenance aux hominines.
C'est-à-dire à la vaste famille qui va de Lucie, l'Australopithèque, à Conan le barbare, en passant par Néandertal. L'humanité actuelle est ce qu'il en reste.
Dans cette émission, nous employons le terme hominine pour parler des êtres humains. Quel que soit leur genre ou leur sexe, il nous permet de contourner les contraintes grammaticales sur le masculin et le féminin. Nous précisons seulement lorsque cela est nécessaire.
Tous les mois, l'émission Tout sur Rien propose des biographies d'hominines inconnues ou des démystifications d'idoles, des explorations géographiques insolites ou des réalités sociales singulières.
Elle tisse des liens entre F. Merjanov et sa réalité avec une bonne dose de capillotraction. L'art de tirer par les cheveux.
Elle se nourrit de toute l'absurdité du monde pour mieux le vomir.
Elle réhabilite des hominines qui comptent pour rien dans l'histoire avec un grand H.
Elle reprend à son compte ces mots d'un célèbre écrivain inconnu.
Dans nos familles, on boit dans des verres à moutarde. Nous ne sommes pas des aristocrates, nous manquons d'élégance et notre race est incertaine. Mais nous n'oublions rien.
Johannes Holtzmann, unique parmi d'autres uniques.
Avant rien.
Difficile, même pour la protivophilie, de déterminer la date d'apparition des premières défiances d'hominines envers les collectifs dans lesquels elles vivent. Sont-elles apparues dès les premiers regroupements indispensables à la survie, ou plutôt lors de constitution des premières formes d'organisation sociale? Depuis quand les hominines perçoivent-ils que les avantages que procure le collectif sont en équilibre fragile avec les désavantages qu'il implique? Avoir une place dans une société, quelle qu'elle soit, induit de se plier à ses règles. Les refuser, c'est prendre le risque de l'expulsion, de subir l'ostracisation, la punition ou même la mise à mort. La paléoanthropologie n'est pas en mesure, à ce jour, d'affirmer que les espèces d'hominines, aujourd'hui disparues, ne furent-elles aussi parcourues par cette problématique comme l'est aujourd'hui encore son unique survivance, l'être humain. Au vu de son histoire connue, faite de sacrifices et de meurtres, il semble que ce questionnement ne soit pas le propre de l'espèce hominine, mais qu'au mieux, il traverse des individualités. Les sources écrites et les traditions orales, encore accessibles, rapportent de nombreuses histoires, récits ou réflexions autour de la place de chaque hominine parmi les autres. La révolte individuelle est une source d'inspiration pour les conteurs, les philosophes, les poètes et autres bavardages. Que de personnages fictifs ou de témoignages dans lesquels la geste individuelle interroge sur les fondements mêmes des sociétés d'hominines. Quelle est la part acceptable pour chaque hominine? Généralement, la révolte est contre une chose en particulier et non contre l'ensemble des contraintes exercées sur les hominines. Les avis sont très divergents quant au sujet digne d'intérêt et l'intensité des rejets qu'ils engendrent, ce qui fait que les personnages peuvent sembler contradictoires, voire antagonistes entre eux. Il n'y a pas de cohérence dans la geste de la révolte individuelle, juste une macédoine d'ingrédients qui oscille entre le fertile compost et le sac à vomi. Par exemple, rien n'empêche de vouloir se sacrifier pour sauver le monde lorsqu'on maltraite ses enfants. Ou trouver magnifique que l'hominine puisse se laisser mourir, tel un petit chiot sur la tombe de son maître, pour cause d'amour interdite, alors que l'on parle peut-être d'une brute épaisse dont les faits de guerre sont sanglants. La plupart du temps, la révolte individuelle n'est pas une contestation globale, ni même partielle, mais bien plus une volonté de retour à un certain ordre des choses. Une simple demande. Qu'elle se base sur un passé regretté ou un futur espéré, cette révolte aspire à être le droit chemin et accéder à sa demande est la garantie d'un retour à une forme de normalité. Dans la littérature des hominines, la geste individuelle est souvent valorisée de telle façon qu'elle ne bouleverse jamais totalement l'existant. Ce n'est pas sa prétention. Elle est exaltée pour ses dimensions romantiques et sanctifiée pour son incapacité à influer profondément sur le réel. Pour autant, l'ensemble des sociétés dominines dispose de mécanismes permettant de faire taire toutes ces dissensions en leur sein. Il est généralement admis comme une évidence que l'individualité doit être soumise à la collectivité dont les intérêts sont jugés supérieurs. La nécessité pour les hominines de devoir vivre en collectif, par obligation biologique pour la survie ou les facilités que cela procure, est un chantage permanent contre les individualités récalcitrantes.
Les cris qui se savent inécoutés enveloppent un horrible silence. Tu peux pleurer, tu peux crier, tu peux vomir, tu ne sauras jamais pourquoi tu es né. Tu peux gémir, tu peux cracher, tu peux maudire, tu ne sauras jamais pourquoi tu es né. Décadence, décadence, décadence. Le problème n'est pas celui du citoyen, mais celui de l'homme. Lorsque l'humanité sera enfin sage, nous passerons de la compétition dans l'individualisme à l'individualité dans la coopération. Renaissance, renaissance, renaissance. Quand tu pourras douter et croire, douter et agir, douter et vouloir. Tu seras sauvé lorsque l'humanité sera enfin sage. Nous passerons de la compétition dans l'individualisme à l'individualité dans la coopération. Paix sur la terre aux hommes, aux cœurs ouverts.
Stirner, rien.
Dans un petit recoin du monde habité, Johann Caspar Schmidt, dit Max Stirner, publie en octobre 1844 après J.C. sa cartographie du monde intitulée « L'unique et sa propriété ». Diplômé en langue ancienne, en allemand, en histoire, en philosophie et en instruction religieuse, Max Stirner est professeur dans une école berlinoise pour jeunes filles. Il fréquente le cercle de discussion des libres, Freien, en allemand, qui se réunit régulièrement dans des bars où jeunes universitaires et autres intellos de Berlin se voient pour discuter de religion, de politique et de philosophie. Dans la décennie 1840, les Freien sont une sorte de café philo. S'y rendent celles qui veulent critiquer l'existant et réfléchir à des possibilités de changement. Parmi elles, Bruno Bauer, le pourfendeur de Jésus, ou les futures stars internationales Friedrich Engels et Karl Marx. Max Stirner connaît les deux premiers, mais pas le troisième. Lors de discussions des Freien, il rencontre Marie Danhardt, sa future femme, à qui il dédie l'unique et sa propriété. Friedrich Engels, qui se dit bon ami avec Max Stirner, publie en 1842 « Le triomphe de la foi », épopée héroïco-comique dans lequel il a pour lui quelques mots.
Regardez Stirner, regardez-le, le paisible ennemi de toute contrainte. Pour le moment, il boit encore de la bière. Bientôt, il boira du sang, comme si c'était de l'eau. Dès que les autres poussent leurs cris sauvages, « Ah bah les rois !» Stirner complète aussitôt, « Ah bah aussi les lois !» Et Stirner de proclamer plein de dignité. Vous liez la volonté, et vous osez vous appeler libre, que vous êtes donc habitué à l'esclavage. À bas le dogme, à bas la loi.
Interdit temporairement à sa sortie pour incitation à la subversion, l'unique et sa propriété est autorisé à être librement diffusé, car son contenu est finalement jugé trop ridicule pour être dangereux. les Freyennes prennent le livre de Max Stirner comme un pavé dans leur vitrine. Il attaque frontalement ce qu'il reste de religiosité et de moralisme dans les théories qui s'échafaudent lors des discussions et dans les écrits, et catalogue tout ce qui opprime moi. Il propose une critique radicale. Dans un premier temps loué par Friedrich Engels, ce dernier se range rapidement parmi les adversaires des thèses défendues dans l'Unique. Le jeune Karl Marx et Friedrich Engels, devant l'ampleur de l'attaque de leur propre conception et la fragilisation de leurs argumentaires, se lancent dans la rédaction à quatre mains de l'idéologie allemande, afin d'apporter leur critique des positions philosophiques circulant parmi les Freyennes, mais le texte ne trouve pas d'éditeur. La partie consacrée à Max Stirner, intitulée « Saint Max », représente les trois quarts du texte. Le ton sarcastique dissimule mal la difficulté pour ces deux auteurs à contrecarrer Max Stirner, et leur suffisance intellectuelle laisse imaginer celle qui sera la leur dans leur futur texte. Ils semblent tous deux si inquiets que leur réponse à l'Unique est beaucoup plus volumineuse que le texte critiqué. Ils y jettent les premières bases de ce qu'ils appelleront plus tard le matérialisme historique, et qui, non sans une certaine ironie, fera de Karl Marx un véritable saint pour ses adeptes. Moses Hess, proche du duo Marx et Engels, écrit en 1845 dans Les Derniers Philosophes que l'ouvrage de Max Stirner marque la fin de la philosophie, sa mise à mort.
Il est arrivé qu'en s'adressant aux hommes de son temps, Max Stirner s'est adressé aux hommes de tous les temps. Mais sans assumer l'allure de prophète tonnant théâtralement du fond de sa caverne, que Nietzsche savait si bien prendre. Stirner ne se présente pas non plus comme un professeur enseignant ses élèves. Il parle à tous ceux qui viennent d'entendre, tel un conférencier ou un causeur qui a rassemblé autour de lui un auditoire de toutes les catégories, manuel comme intellectuel.
Dans L'Unique et sa propriété, Max Stirner développe l'idée que rien ne justifie que l'individu doive se plier ou se sacrifier à une quelconque cause ou collectif. Ce qu'il appelle l'unique est le soi-même, propre à chaque hominine, et non pas sa simple personne. Il ne tente pas de définir ce que chaque hominine est ou devrait être, mais plutôt ce qui est contradictoire avec son intérêt individuel. Le livre s'ouvre et se finit sur cette fameuse maxime.
Je n'ai basé ma cause sur rien.
Ici, on reste correct, espèce de petit enfoiré. Ici, on ne fête pas les anniversaires. Ça n'existe pas. Les mois n'existent pas non plus. Ni les semaines. Toute l'année, c'est la même putain de journée qui recommence. Ici, le soleil se lève et se couche. Entre les deux, il ne se passe rien.
Max Stirner s'en prend directement à la religion, qu'il voit comme un asservissement à des croyances infondées et à des morales contraignantes, mais aussi aux approches philosophiques, qui, tout en faisant la critique, ne parviennent pas à s'en détacher radicalement. Et en premier lieu, les hominines qu'il fréquente lors des discussions des Freien. Adepte d'amélioration sociale et d'ajustement économique progressif dans les sociétés dominines, la pensée libérale y côtoie la pensée socialiste, qui, elle, préconise plutôt des ruptures plus nettes afin d'hâter les réformes pour l'amélioration générale des conditions de vie des hominines. Dans le texte, L'Unique et sa propriété démontrent l'argumentaire des pensées libérales et socialistes, leur reprochant de limiter leur critique de l'existant, car encore trop imprégnée de morale. En cette fin de XIXe siècle, ces pensées se structurent dans un contexte politique où les régimes autoritaires, républiques et autres royaumes dirigent durement leur population et où les conditions sociales sont bouleversées par l'industrialisation toujours plus grande des sociétés dominines en Europe. Les outils de contrôle politique se sont améliorés grâce aux réorganisations administratives et politiques et la dépendance économique s'est accrue pour une grande part de la population, celle qui intègre l'économie industrielle. Le débat se focalise entre réformisme et révolutionnarisme, l'un proposant à l'unique d'admettre qu'il n'aura jamais totale satisfaction, tout en enjoignant de croire que les lendemains peuvent être meilleurs qu'aujourd'hui. L'autre fait le pari que les lendemains ne peuvent qu'être meilleurs, et qu'à ce titre, l'unique ne compte pour rien, ou si peu. Reproduisant la morale religieuse, les pensées libérales et socialistes instaurent de la morale politique censée être le nouveau carcan dans lequel s'enferme l'unique. Par des procédés rhétoriques et des discours emberlificotés, ces deux pensées proposent un marché de dupes à chaque hominine. Pour résumer en quelques mots, disons que devant le constat que si rien n'est fait, une personne va mourir, il est proposé comme une évidence que l'une d'entre elles doit pouvoir être tuée, ou se tuer pour empêcher cela. Pour sa fonction sociale, l'unique n'est pas irremplaçable, ce qui, pour soi-même, est en contradiction totale avec la réalité. Selon Max Stirner, toute idéologie, même politique, reste une prison pour l'unique, pour soi. Contre cela, il prône des associations entre uniques, basées sur la franchise qu'elles sont motivées par des intérêts partagés.
Tout de même, l'avantage sur lui, il va sûrement venir. On va s'en servir. Ok, j'ai un plan. Enfin, le début d'un plan. C'est très simple, on le fait venir, on le capture, on prend ce qu'on souhaite. On fait pas ça pour l'inviter à danser, on veut seulement son gantelet. T'es en train de bâiller ? Au moment même où j'expose mon plan, hein ? T'as entendu ce que j'ai dit ?
J'ai arrêté d'écouter quand t'as dit qu'il nous fallait un plan.
Ok, Monsieur Nett est vraiment déchanté.
Suivre un plan d'action, c'est pas vraiment leur truc.
Mais dans ce cas-là, c'est quoi leur truc ?
Nous, c'est ça passe ou ça casse.
Oui, c'est ça.
Vous voulez bien vous approcher ? Il va falloir qu'on s'entende. Si on se la joue présomptueux, on n'a pas la moindre chance.
Non, on n'est pas présomptueux. On sait même pas ce que ça veut dire. D'accord ? On est juste optimiste. J'adore votre plan, à ceci près qu'il est nul. Alors laissez-moi faire le plan, et comme ça, ça marchera beaucoup mieux.
Généalogie de la morale.
En Russie, alors qu'il est en prison, l'écrivain Nikolaï Tchernychevski écrit entre 1863 et 1864 le roman « Que faire ?». Il met en scène de jeunes Russes dont l'ambition principale est de mettre fin au régime en place, à tout prix. Publié, le succès auprès de la jeunesse russe est immense et la censure se rue dessus. Il inspire une génération de jeunes révolutionnaires, celle des années 1860, qui ne compte pas se contenter de ce qui lui est proposé. Sans avoir eu besoin de lire l'unique et sa propriété, de façon croisée, le nihilisme littéraire et la révolte radicale reprennent à leur manière les questionnements qui le traversent. Ils interrogent tous les domaines de la vie. Rien ne peut être accepté sans condition. Aucun dogme, quel qu'il soit, ne peut échapper à la critique. Il n'y a aucune exception à cela. Ce nihilisme n'est pas une affirmation ou une dévotion à rien, mais un doute permanent et indispensable qui seul peut amener l'unique à prendre conscience de tous les carcans qui l'entravent. La religion, l'autorité ou la morale, pour ne citer que les plus célèbres sites pénitentiaires. Mais, contrairement à Max Stirner, les jeunes révolutionnaires russes de la fin du XIXe siècle acceptent l'idée de sacrifier leur propre vie pour sauver d'autres uniques. L'unique devient leur cause. Une certaine forme de religiosité est palpable dans l'agitation nihiliste en Russie. Contrairement à ce que pourrait laisser penser son étymologie, le nihilisme ne base pas sa cause sur rien. Généralement, ce qualificatif n'est pas utilisé par les hominines qu'il est censé désigner, car il est souvent dépréciatif dans la bouche de celles qui l'emploient.
C'est un nihiliste. Comment ? Lui demanda son père. C'est un nihiliste, répéta Arcade. Un nihiliste, dit Kirsanov. Ce mot doit venir du latin nihil, rien, autant que je puis juger. Et par conséquent, il signifie un homme qui ne veut rien reconnaître, ou plutôt qui ne respecte rien, dit Paul. Un homme qui envisage toute chose à un point de vue critique, reprit Arcade. Cela ne revient-il pas au même ? Demanda son oncle. Non, pas du tout. Un nihiliste est un homme qui ne s'incline devant aucune autorité, qui n'accepte aucun principe sans examen, quel que soit le crédit dont jouisse ce principe.
Vers la fin de la seconde moitié du XIXe siècle, les débats politiques dans les cercles révolutionnaires se structurent autour de l'opposition entre, d'une part, les écrits et gestes de Karl Marx et ses proches, et d'autre part, par ceux de Mikhaïl Bakounine et son entourage. L'un est favorable au renversement méthodique d'une classe sociale par une autre, afin que progressivement toutes disparaissent. Alors que le second préfère envisager la lutte des hominines, sans distinction, contre l'ensemble des mécanismes de domination sociale. Lutte des classes versus guerre sociale. Pour les plus cinéphiles, précisons que les nuances entre Karl Marx et Bakounine sont à peu près les mêmes qu'entre les Avengers et les Gardiens de la Galaxie. Les pensées marxistes anarchistes ne se réduisent nullement à ces deux auteurs phares, et chacune est composée d'une multitude de courants et d'approches différentes. Une myriade de textes et réflexions sont produits à travers tout le sous-continent européen, pour alimenter la critique de l'existant et trouver une bonne solution pour y remédier. Max Stirner est mort et l'unique et sa propriété est tombée aux oubliettes.
Mais un face-à-face, d'accord, mais moi tout seul.
4 ans après la sortie de La généalogie de la morale par Friedrich Nietzsche, la publication en allemand en 1891 du roman Les anarchistes de John Henry Mackay, puis en 1897 de son étude Max Stirner, sa vie, son œuvre, font renaître le souvenir de Max Stirner. Il en propose une lecture qui fait de Max Stirner le précurseur de l'anarchisme individualiste. Bien que très critique vis-à-vis de l'anarchisme de Pierre-Joseph Proudhon, Max Stirner est ainsi associé à l'anarchisme de cette fin du XIXe siècle, qui s'éloigne de celui de Proudhon et s'enrichit de Bakounine et Kropotkine. Parmi les théories révolutionnaires naissantes de cette époque, l'anarchisme, par ses préoccupations sur l'individu, est sans conteste la plus proche des intérêts de l'unique stirnerien. Néanmoins, l'anarchisme individualiste se différencie d'autres approches anarchistes, plus influencées par l'utopisme, le socialisme ou le marxisme, et qui placent la société ou la collectivité au centre de leur dynamique politique, au cœur de leurs analyses sociales. Pour elles, le collectif est vu comme une solution à l'individu plutôt que l'inverse, un allié plutôt qu'un ennemi de l'unique.
Dieu et l'humanité ne se préoccupent de rien que d'eux-mêmes. Laissez-moi donc, à mon tour, m'intéresser à moi-même. Moi qui, comme Dieu, ne suis rien pour les autres. Moi qui suis mon tout, moi qui suis l'unique.
L'unique et sa propriété est traduit en anglais et en français à la fin du XIXe siècle. La redécouverte des écrits de Max Stirner, plusieurs décennies après sa mort, réintroduit ses idées dans les débats. Ces réflexions permettent de peaufiner la critique des théories politiques et d'y dénicher les relents de religiosité ou de morale. Elles interrogent l'ensemble des théories politiques utopistes, anarchistes ou communistes en tant que dogmes imposés à chaque individualité. Une piqûre de rappel pour qui oublie que rien n'est au-dessus de l'unique. Les théories apportent des réponses alors que l'unique pose des questions. L'apport des idées de Max Stirner permet ainsi de mieux remettre en cause les aspects du quotidien. L'anarchisme individualiste et l'égoïsme stirnerien, qui n'est pas toujours aisé de différencier, sont traversés par exemple par des réflexions sur le végétarisme, la nudité, les rôles genrés ou la sexualité. Johannes Holtzmann naît le 30 octobre 1882 dans la ville de Tuchel, alors en Prusse et depuis polonaise sous le nom de Tuchola, au sein d'une famille moïsienne et bourgeoise. Il part pour Berlin, où il donne des cours sur la religion, mais quitte son poste d'enseignant rapidement, dès 1902. Tout d'abord attiré par la politique du Parti social-démocrate d'Allemagne et le mysticisme de la théosophie, il s'en éloigne pour se consacrer à la défense de l'homosexualité. Depuis 1871, l'article 175 du Code pénal allemand considère que les actes sexuels contre nature qui sont perpétrés, que ce soit entre personnes de sexe masculin ou entre hommes et animaux, sont passibles de prison. Il peut aussi être prononcé la perte des droits civiques. Pour l'homosexualité féminine, l'ambiguïté demeure car aucun texte ne semble la viser directement. Plusieurs centaines par an d'hominines mâles sont ainsi emprisonnés en vertu de cet article.
J'encule les sectes sataniques, les schizophrènes, les fanatiques, les homosexuels et les gouines. Et j'encule ma cousine, j'encule les cons, j'encule les nés. Et j'encule les armées, j'encule les cons, j'encule les nés. Et j'encule les armées, j'encule mon père, j'encule ma mère. J'encule les serpillères, j'encule les ménageurs.
Étoiles et j'encule les cieux, j'encule les archanges, les démons et aussi j'encule Dieu.
Kampf.
Généralement considéré comme le premier journal à défendre l'homosexualité masculine, l'Unique, Der Eigene en allemand, est lancé en 1896 à Berlin par Adolf Brandt. Influencé par l'Unique stirnerien et proche de John Henry Mackay, Adolf Brandt parvient à aborder ce thème de manière détournée, par la poésie ou la littérature, sans être directement confronté aux interdits du paragraphe 175. L'Unique aborde aussi des sujets tels le naturisme ou la gymnastique, avec toujours une pointe d'anarchisme. Sous-titré dans un premier temps « Gazette pour tous et personnes », puis « Gazette de culture masculine », le journal, outre John Henry Mackay, ouvre ses colonnes autant au sexologue Benedict Friedlander pour l'argumentaire scientifique qu'à des illustrateurs ou des graveurs pour l'imagerie des corps masculins, ou bien à des poètes passés ou présents dont l'homosexualité est un sujet d'intérêt ou leur propre pratique sexuelle. Avec le sexologue Magnus Hirschfeld, quelques personnalités berlinoises et des membres de l'Unique, Adolf Brandt participe en 1897 à la création du Comité scientifique humanitaire, la première organisation à réclamer l'abolition du paragraphe 175 pénalisant l'homosexualité. Les discussions autour de la nature de l'homosexualité aboutissent en 1903 à l'éclatement du comité, entre d'une part Magnus Hirschfeld qui défend son caractère inné et donc non condamnable et propose le concept de troisième sexe pour la définir, et d'autre part Adolf Brandt et quelques uniques qui refusent cette conception naturaliste. Ils fondent la communauté de l'Unique pour laquelle l'homosexualité, et plus généralement la sexualité des hominines, n'a pas à être justifiée, mais simplement vécue librement par les uniques. Je n'ai basé ma cause sur rien.
Pour critiquer les conceptions naturalistes de Magnus Hirschfeld sur l'homosexualité, Le troisième genre est publié en 1904 par Adolf Brandt et Johannes Holtzmann. Ce dernier a lancé Combat, Kampf en allemand, en 1903, supplément du journal berlinois Montag Post. Après cette première tentative, Combat est relancé en 1904 avec le sous-titre « Journal du sens commun ». Johannes Holtzmann agglomère d'autres hominines autour de ce projet. La plupart fréquentent la nouvelle communauté, une mouvante communauté de vie d'unique dans le quartier berlinois de Schlachtensee, où poésie, littérature et politique s'entrecroisent. Sur un ton résolument anarchiste individualiste, Johannes Holtzmann, sous le pseudonyme de Sena Hoy, l'inverse de son prénom, prend la défense de l'homosexualité. Sans l'être lui-même, il réclame sa dépénalisation totale et plus généralement défend la liberté amoureuse et sexuelle, car qui peut sérieusement dire à l'Unique que sa sexualité n'est pas acceptable? Entre 1904 et 1905, le journal s'imprime à toujours plus d'exemplaires, jusqu'à 10 000 au plus fort de la diffusion des 26 numéros édités. Johannes Holtzmann y publie l'article « L'homosexualité comme mouvement culturel », dans lequel il rappelle que « personne n'a le droit de s'immiscer dans les affaires privées d'autrui, de se mêler des opinions et orientations personnelles d'autrui, et qu'en fin de compte, ce n'est l'affaire de personne ce que deux adultes librement consentants font chez eux. L'unique sens commun pour l'unique. » Selon l'anarchiste autrichien Rudolf Grossmann, connu sous le pseudonyme de Pierre Rabmus, le succès de Combat est tel qu'il décrit Johannes Holtzmann comme « le prolétaire bohémien le plus infatigable du mouvement anarchiste germanophone ». Le journal se diffuse dans toute l'Allemagne. Pensant qu'un conflit armé se prépare contre le royaume britannique avec le soutien des sociodémocrates et que cela annonce une grande tragédie pour les hominines d'Allemagne, Johannes Holtzmann défend l'idée d'une libre association des uniques dans les usines et les ateliers, plus à même d'empêcher cette guerre que les syndicats qu'il juge trop timorés. Ses positions politiques et son approche de l'homosexualité ne sont évidemment pas partagées par tous les journaux ou hominines anarchistes, individualistes ou pas. En 1905, des hominines du journal font une tournée de présentation de la région industrielle de la Ruhr, proche de la frontière franco-allemande, où des dizaines de milliers d'hominines originaires de Pologne travaillent dans les mines de charbon. Les activités des membres de Combat sont sous étroite surveillance de la police. Craignant d'être arrêté après une condamnation à 4 mois de prison pour ses écrits dans Combat, Johannes Holtzmann quitte l'Allemagne pour la Suisse. En individualiste stirnerien, il suit à sa manière l'expression « rêver à la Suisse » qui, en ce début de XXe siècle, signifie « ne penser à rien ».
Arrivé clandestinement en pays helvète courant 1905, Johannes Holtzmann participe, avec quelques autres anarchistes, à la version germanophone du journal anarchiste suisse Le Réveil édité à Zurich entre 1903 et 1907. Le journal est régulièrement inquiété par les autorités pour la propagande résolument antimilitariste dans ses colonnes et ses membres sont condamnés à de la prison et des amendes lorsqu'il s'agit d'Helvètes et à l'expulsion du territoire lorsque les hominines sont étrangers. Le 22 septembre 1905, les autorités helvétiques publient un décret d'expulsion contre Johannes Holtzmann. Pour avoir abusé de son séjour dans cette ville, où il portait les faux noms les plus divers en se livrant à une propagande compromettante pour la sûreté intérieure de notre pays. Afin de brouiller les pistes, il fait courir le bruit qu'il a été tué lors d'une tentative d'évasion à Varsovie, une nouvelle reprise par la presse. Arrêté le 12 février 1906 à Zurich, Johannes Holtzmann est armé d'un pistolet et d'un poignard, selon les dires policiers, et tente à deux reprises de s'échapper avant son arrivée dans la prison. Il est expulsé du territoire suisse. Entré de nouveau clandestinement, il est arrêté en mai 1906 et emprisonné à Zurich. Battu par ses geôliers, il entame alors une grève de la faim pour protester contre sa situation, mais y renonce après quelques jours face aux menaces d'être nourri de force. À la suite d'une tentative avortée d'évasion de la prison zurichoise de Winterthur le 21 juin, il est transféré, à quelques kilomètres de là, vers celle de Regensberg, plus sécurisée. Johannes Holtzmann est condamné par la justice helvétique pour infraction à un arrêté d'expulsion et pour résistance à la force publique à 6 mois de prison et 15 ans d'expulsion. Il est finalement expulsé le 26 octobre 1906 à la frontière franco-helvétique.
Je prends mon café sans sucre et mon Vélib sans sel. Question existentielle, combien de beuteux existent dans le ciel? Plug anal, concombre, j'ai tous les ustensiles. Je suis sur la piste dansante, momifié comme Dolan ou en Égypte ancienne. On reste en famille, comme Marc Hamill. C'est moi le mec, du mec Amila. J'ai la vision sur les euros. Je regarde l'Eurovision que pour Bilal. Un doigt dans le cul pour un 10 balles. Je pense à Dylan, mon anus se dilate. On se voit dimanche pour le pilote. Si j'achète un jet, c'est pour payer bon le pilote. Jamais dans la tendance, toujours une bonne érection. Tu sais que je vais te péter le fion, c'est pas une expression. PMU par toi, ma vie c'est PMU par tous. PMA pour toutes, je m'en bats les couilles des élections. C'est pour mes suceurs.
C'est pour vous, mes suceurs.
C'est pour mes suceurs.
C'est pour qui?
Celle-là, c'est pour mes suceurs.
Ouais, toi aussi là.
Pour mes Dylan, pour mes beuteux, pour mes Chibrax, pour mes trans, PD Queens et pour mes suceurs.
Ouais, toi t'es un suceur, ma gueule.
C'est pour mes suceurs.
La page.
Celle-là, c'est pour mes suceurs.
On est ensemble.
Pour mes Dylan, pour mes beuteux, pour mes Chibrax, pour mes trans, PD Queens. J'ai tous les albums de pommes en double, t'es dans le passé comme Code Quantum. Quand t'écartes comme Vandamme, je débouche les chiottes au Code Ventouse. Fais le tour des cellules comme Mister You, à la recherche d'une Ré mystérieuse. Cagoulé comme Ré Mysterio, manie le sabre à la Master Yi. J'suis dans les bas-fonds dans les tours, trop de bastons dans les cours. On m'a mis des bâtons dans les roues, j'ai mis mon bâton dans des roues. Le label c'est pète-moi le fion, j'vois que des profs aiment faire la leçon. Tu fais l'action, je fais la sion, captain. C'est pour mes suceurs.
C'est pour vous, mes suceurs.
C'est pour mes suceurs.
C'est pour qui?
Celle-là, c'est pour mes suceurs.
Ouais, toi aussi, là.
Pour mes Dylan, pour mes beuteux, pour mes Chibrax, pour mes trans, PD Queens, c'est pour mes suceurs.
Ouais, toi, t'es un suceur, ma gueule.
C'est pour mes suceurs.
La page.
Celle-là, c'est pour mes suceurs.
On est ensemble.
Pour mes Dylan, pour mes beuteux, pour mes Chibrax, pour mes trans, PD Queens, c'est pour mes teubs à l'allure bizarre des petites aux éléphantes, man. Ceux qui ressassent l'avant ou un arrière, mais le défendent mal. Hémorroïdes.
Crépuscule de l'Unique.
Après la parution en 1892 de la traduction en français de Les Anarchistes de John Henry Mackay et en 1899 celle de L'Unique et sa propriété, le lectorat francophone redécouvre Max Stirner grâce à Stirner et Nietzsche de Albert Lévy et L'individualisme anarchiste Max Stirner de Victor Bache, tous deux parus en 1904. Les débats entre anarchistes et individualistes sont animés. Anne Riner publie « Petit manuel individualiste » en 1903 et Georges Palante « Combat pour l'individu » l'année suivante. Le « Crépuscule des idoles » de Friedrich Nietzsche alimente les désirs de mettre fin à ce monde prison pour les uniques. En plus des textes publiés, différents journaux se fondent avec un leitmotiv individualiste ou anarchiste individualiste. De l'autonomie individuelle en 1887 à l'anarchie, lancée par Albert Libertad et Anna Mae en 1905, la distinction entre l'individualisme et l'anarchisme individualiste n'est pas toujours nette. D'après Georges Palante, les mots anarchisme et individualisme sont fréquemment employés comme synonymes. Des penseurs, fort différents d'ailleurs les uns des autres, sont qualifiés un peu au hasard, tantôt d'anarchistes, tantôt d'individualistes. C'est ainsi que l'on parle indifféremment de l'anarchisme ou de l'individualisme stirnerien, de l'anarchisme ou de l'individualisme nietzschéen. Si pour l'individualiste, chaque anarchiste est un peu individualiste, l'inverse n'est pas une évidence. Néanmoins, ils se retrouvent sur leur rejet catégorique de l'existant, du présent. Dans l'initiation individualiste anarchiste, si tu es individualiste, toute association ne peut être pour toi qu'un pis-aller, puisqu'en t'associant, tu perds tant soit peu de ton indépendance. Un pis-aller, pour un temps déterminé, avec des individus déterminés, pour une besogne déterminée, sans lequel la besogne, qui se tient au cœur, ne pourrait être accomplie. Dans la France du début du XXe siècle, l'anarchisme individualiste est au croisement de projets de communautés de vie, éducation populaire, entraide sociale et journaux, et de l'héritage de la propagande par le fait, attentats, expropriations et meurtres des décennies précédentes, mais aussi de positions non violentes, végétariennes, nudistes. L'anarchisme individualiste n'est pas un monolithe, et les hominines s'en réclamant peuvent être en profond désaccord sur tel ou tel sujet. La question de l'utilisation de la violence, et plus généralement de l'illégalisme, est par exemple un sujet de discorde récurrent, parfois de rupture. Les réflexions sur la sexualité ou l'amour libre sont aussi des sujets de discussion très présents parmi les anarchistes individualistes, dont la mise en pratique est complexe, et les expériences aboutissent parfois à de graves dissensions entre les hominines. Inspiré par L'Unique d'Adolphe Brandt, Academos, la première revue à défendre directement le thème de l'homosexualité, ne verra le jour qu'en 1909.
Indésirable en Suisse, Johannes Holtzmann part en direction de Paris. Installé dans la capitale française fin 1906, rien n'indique qu'il ait eu des contacts avec les milieux anarchistes individualistes parisiens. N'étant pas francophone, il côtoie plutôt des groupes d'anarchistes constitués d'hominines originaires d'Allemagne ou de Russie, et parmi ces derniers, particulièrement des Moïsiens, car il comprend un peu la langue yiddish. Dès le début de la seconde moitié du XIXe siècle, outre la Suisse ou le Royaume-Uni, le territoire français est un des lieux de refuge de révolutionnaires russes qui fuient la répression du régime tsariste. Cet exil involontaire n'est pas un moment de villégiature. Selon leur affinité politique, des groupes s'organisent pour constituer des comités de soutien aux prisonniers des geôles tsaristes, publier des journaux qui transitent ensuite clandestinement vers la Russie, récolter des fonds pour soutenir les luttes ou encore préparer des actions clandestines et violentes contre les intérêts ou des personnalités russes. Leurs activités inquiètent et les groupes et individus font l'objet d'une surveillance policière qui s'en mêle un peu entre les multiples tendances politiques des milieux révolutionnaires russes.
Toute notre démarche, depuis qu'on s'est rencontrés, c'est de combattre l'idée même que des gens aient des super-pouvoirs.
Toi, tu vis dans un univers de contes de fées où les elfes se godent avec des fleurs. Moi, je vais vivre ici et maintenant, mon pote, sur la planète Terre.
De la répression sanglante d'une manifestation ouvrière en février à Saint-Pétersbourg à l'insurrection de Moscou en décembre, l'année 1905 est celle de toutes les contestations. L'ensemble du territoire de l'Empire russe est parcouru de manifestations, de grèves et d'occupations. Dans les usines, l'armée ou les écoles, les hominines s'organisent de plus en plus en conseil, soviet en russe, pour réclamer collectivement de nouveaux droits, ou s'opposer aux milices patronales ou à l'armée, qui, au prix de nombreuses morts, tentent de faire taire les contestations. Dans le monde rural, des hominines occupent des terres et s'opposent aux grands propriétaires terriens. Le tsar est contraint de promulguer des réformes politiques et sociales pour libéraliser un peu l'État et octroyer des libertés supplémentaires à certaines couches de la population. Une myriade de groupes anarchistes clandestins apparaissent dans les régions industrielles du sud-ouest de la Russie et du nord-ouest, dans les territoires de l'ancien royaume de Pologne et de Lituanie. ces groupes multiplient les attaques à main armée pour financer leurs journaux et leur logistique, les assassinats ciblés contre des politiciens, des industriels, des militaires et des contremaîtres d'usines. La répression est sévère. Des milliers d'arrestations, des centaines de morts et d'années de peine de prison. Parfois éphémères, démembrés par la répression policière, les groupes anarchistes sont autonomes les uns des autres, même si des individus naviguent de l'un à l'autre. Il n'y a pas de structure anarchiste, mais un ensemble de groupes qui se recomposent en permanence, au rythme des morts et des arrestations, des choix individuels et des rencontres, des stratégies et des analyses politiques. Ils sont alors souvent qualifiés d'anarchistes communistes, pour les différencier des tendances de l'anarchisme qui prônent d'autres méthodes pour renverser le pouvoir politique et l'ordre économique. Parmi les adeptes de la propagande par le fait et de l'action directe, les débats sont vifs entre anarchistes communistes, syndicalistes révolutionnaires et anarchistes individualistes.
Comme Genève en Suisse, Paris est depuis le milieu du XIXe siècle un lieu d'exil pour nombre d'hominines fuyant la répression du régime tsariste. Tous les courants révolutionnaires y sont présents, et toutes leurs tendances sont représentées. Lieu de répit, la ville est aussi celui où sont imprimés des journaux clandestins et des textes, ensuite envoyés clandestinement en Russie. Parmi les anarchistes russes de Paris, les anarchistes communistes se démènent pour aider à distance leurs comparses encore en Russie. Lorsque Johannes Holtzmann arrive à Paris fin 1906, le souvenir est encore frais de l'explosion accidentelle dans le bois de Vincennes de la bombe de l'anarchiste communiste russe Vladimir Striga-Lapidus en mai et le procès qui s'ensuivit en juillet. Vladimir Lapidus est tué lors de l'explosion et son comparse Alexander Sokolov blessé aux jambes. Lapidus participe aux actions clandestines du groupe des ouvriers anarchistes communistes d'Ekaterinoslav et à celle du drapeau noir à Bialystok. Regroupant plusieurs fédérations de métiers ainsi qu'une quinzaine de groupes d'ouvriers dans des usines, drapeau noir est le groupe clandestin anarchiste le plus important en 1906 dans la région de Bialystok. Il réalise des vols à main armée, des extorsions de riches et des assassinats ciblés contre des industriels, des indicateurs de police ou des militaires responsables directs des morts de la répression.
Pour beaucoup d'anarchistes d'Europe et des Amériques, la situation politique et sociale en Russie suscite depuis 1905 un intérêt grandissant. L'agitation des groupes révolutionnaires et la multiplication des mouvements sociaux ne cessent de perturber l'ordre tsariste qui se fissure doucement. En Europe de l'Ouest et dans les Amériques, la presse révolutionnaire relate régulièrement l'activité russe. Début 1907, Johannes Holtzmann annonce à son ami Rudolf Grossmann sa décision de se rendre en Russie pour prendre part aux luttes qui s'y déroulent. L'unique en lutte pour les uniques.
Je me réjouis, on ne peut plus, d'apprendre que tu penses sérieusement à rentrer en Autriche. C'est là-bas que tu dois être. C'est au mouvement révolutionnaire autrichien que tu appartiens, toi qui as suffisamment combattu à l'étranger pour notre idée. Mais pour moi, il n'en est pas du tout de même, et c'est une chose que tu ne peux comprendre, parce que tu n'es pas dans ma peau. Je veux encore prendre part un peu plus, et plus longtemps aussi, au mouvement anarchiste étranger, avant de me rendre dans les prisons du pays indigne où je suis né. Pour cela, j'ai toujours le temps. Et puis, je n'ai pas l'intention d'aller moisir à l'heure actuelle dans les geôles d'un pays comme l'Allemagne où la révolution n'avance qu'à pas compter. Partir en Russie me semble pour le moment le plus imposant des devoirs, pour tous ceux qui aiment combattre. Si je succombe là-bas, je succomberai pour la liberté de l'Europe, car elle dépend beaucoup de l'issue de la révolution russe. Si je survis à la révolution, j'aurai encore devant moi tout le temps nécessaire pour retourner en Allemagne, purger ma peine, et, instruit par l'expérience des choses vécues en Russie, pour y reprendre ma place dans la lutte pour nos idées. Dans ce dernier cas, la prison serait pour moi un lieu de repos, et ma détention marquerait une trêve dans ma vie.
En provenance de Bruxelles, Johannes Holtzmann arrive en Russie en mars 1907 avec un passeport au nom d'Auguste Waterloo. Il est porteur de 500 roubles destinés aux anarchistes communistes de Łódź et de Varsovie. Très actif depuis 1905 dans les grèves et accusé de diverses explosions et dégradations, le groupe anarchiste communiste international subit de plein fouet la répression. 11 hominines sont condamnées à mort et fusillées en janvier 1906 à Varsovie et à Łódź. 9 autres sont condamnés en décembre à des peines de travaux forcés en Sibérie. À Bialystok, Johannes Holtzmann participe à plusieurs vols à main armée afin de récupérer l'argent nécessaire à imprimer les journaux et financer l'achat du matériel utile aux attaques à l'explosif ou aux assassinats ciblés. Il se rend ensuite à Varsovie, puis à Lodz, au milieu de l'année 1907. Afin d'optimiser leurs forces, plusieurs groupes anarchistes communistes organisent une rencontre début juillet 1907 à Kaunas, en Lituanie actuelle. Johannes Holtzmann y est présent. Le constat du manque de moyens financiers et de la nécessité de se réorganiser collectivement afin de pouvoir continuer à mener des actions violentes contre le pouvoir tsariste pousse les Ominines à constituer la Fédération des anarchistes communistes de Pologne et Lituanie. Le 17 juillet 1907, quatre Ominines s'introduisent dans la maison d'un riche marchand de la région de Lodz pour lui extorquer de l'argent. Tué accidentellement, celui-ci n'a pas le temps de répondre à la demande et les quatre Ominines repartent sans rien. Dans leur fuite, seul Johannes Holtzmann est arrêté par la police. La répression s'abat sur les Ominines ayant participé à la réunion de Kaunas et en septembre 1908 se tient à Varsovie le procès de 23 Ominines. Johannes Holtzmann est condamné à 15 ans de travaux forcés pour son appartenance à la Fédération et à 12 années de prison pour sa participation à la tentative d'extorsion malheureuse.
Ils peuvent me tuer, je parlerai pas.
Mais moi non plus, ils peuvent vous tuer, je ne parlerai pas.
Je savais qu'on pouvait compter sur vous.
Les conditions de détention sont épouvantables et nombre d'Ominines sombrent dans la démence. Johannes Holtzmann est transféré en 1911 vers la citadelle de Varsovie pour y être enfermé dans l'aile psychiatrique. Pour échapper à son quotidien, il se remet à écrire de la poésie. Un recueil de Senaoi sera publié sous le titre « Sans autorité ». Étant de nationalité allemande, ses proches, et particulièrement Else Lasker-Schüller, plaident pour son transfert vers une prison allemande. Malgré qu'elle soit sans le sou, Else Lasker-Schüller parvient à réunir une petite somme auprès d'autres Ominines qui la soutiennent pour se rendre à Moscou en 1913. Elle obtient des autorités russes que Johannes Holtzmann soit envoyé en Allemagne. Mais pour des questions de politique intérieure, ce pays s'oppose à ce retour et Johannes Holtzmann est bloqué en Russie. Malade et affaibli, Johannes Holtzmann meurt le 28 avril 1914 en Russie. Sa dépouille est rapatriée en Allemagne et enterrée au cimetière moïsien de Weissensee à Berlin. Comme tant d'autres avant lui, l'unique est mort.
Qu'est-ce qu'avoir vécu et connu, avoir su et voulu, avoir semé et moissonné? Quand on ne sera bientôt plus, et que le monde, qui sait, durera des éternités. Quand il y a tant d'actes qu'on n'a pas accomplis, de pensées dévorantes qu'on n'a pas pensées, de souffrances cinglantes qu'on n'a pas subies, de rires bruyants qu'on n'a pas poussés. Et moi, à l'heure où mes fossoyeurs, la pipe et la malice aux lèvres, se mettent à creuser, où une dernière vision se fige dans mon cerveau, où je sens crier en moi une dernière volonté, je regrette chaque crime que dans ma vie je n'ai pas commis. Je regrette chaque désir que dans ma vie je n'ai pas assouvi.
Le guet sachoir.
Bien que publié l'année de sa naissance, en 1882, le guet sachoir aristocratique de Nietzsche semble avoir bien moins d'influence que le guet sachoir populaire de Max Stirner sur Johannes Holtzmann. L'un s'adresse aux adeptes du surhumain, à celles qui se sentent investis individuellement de nier l'existant. L'autre vise l'ensemble des Ominines, les uniques, qui cherchent à s'en affranchir, sans exception. Là où le premier se pose en pourfendeur de la philosophie et produit pour cela une œuvre philosophique du néant, le second met à mort cette philosophie en la réduisant à néant. Car pour lui, tout peut se résumer à cette formule « rien n'est au-dessus de moi ». Indirectement, Max Stirner rejoint les débats sur l'anti-intellectualisme qui traverse ces milieux révolutionnaires, et particulièrement anarchistes. La défiance est grande envers les blablabla et autres théories, car si le savoir est une arme, elle est celle des Ominines qui le détiennent.
Le rejet radical par Max Stirner de ce qui n'est pas en conformité avec les intérêts de l'unique ouvre, pour les Ominines qui s'en réclament, la porte à toutes les interrogations sur l'existant. L'unique et son égoïsme s'insinuent partout. Pour ne citer que quelques exemples du début du XXe siècle, du journal L'Égoïste de la féministe britannique Dora Martsen à la tentative de colonie individualiste de Mastatal au Costa Rica, du journal L'Unique, publié par des ouvriers du canal de Panama réunis en une fédération individualiste internationale, à la publication de Combat par Johannes Holtzmann et sa défense de l'homosexualité, les pensées sur l'unique explorent les multiples facettes de ce qui entrave les Ominines. La liste est loin d'être exhaustive. Rien n'est une limite pour les uniques. Pour la protivophilie, il est évident que F. Merjanov se rattache, d'une manière ou d'une autre, à la pensée individualiste. Que ce soit dans Analecte de rien ou dans les textes qui lui sont attribués, l'unique est toujours présent en filigrane. Max Stirner n'est que brièvement cité, et il ne constitue pas l'unique base de réflexion pour F. Merjanov. Rien ne dit que la lecture de l'unique et sa propriété soit son hobby préféré plutôt que le tac-tac.
Recommence. Mais il faut pas dormir, recommence.
Inutile d'avoir lu Max Stirner pour entrevoir soi-même la profonde problématique que pose le rapport avec les autres individus. Seul l'intellectualisme de quelques hominines prétend qu'il est indispensable de philosopher pour voir en quoi le monde tel qu'il est peut être jugé détestable. Nul besoin de théorie politique ou d'analyse sociologique pour comprendre que les morales collectives, les organisations sociales et les croyances religieuses sont des carcans pour les hominines les refusant. L'homosexualité et toutes les formes de sexualité chez les hominines sont des sujets, parmi tant d'autres, sur lesquels la collectivité s'arroge des droits et encadre les envies des uniques. Au mieux, elle en fait une catégorie sociale acceptée, une donnée sociologique qu'elle préserve dans un système discriminatoire qui maintient des inégalités entre ces hominines et les autres.
En ce qui concerne la sexualité des hominines, F. Merjanov ne dit rien. Qu'y a-t-il ajouté à ce qui a déjà été dit sur ce sujet? Les uniques sont libres de faire leur propre choix sexuel, s'ils sont mutuellement consentis. La sexualité même de F. Merjanov reste un mystère. Les quelques travaux qui y sont consacrés ne parviennent pas à en savoir plus. Étant donné que son sexe biologique ou son genre sont inconnus pour ses biographes, il est au mieux possible d'affirmer que sa sexualité, si l'on se cantonne à celle avec des hominines, est probablement androphile, gynophile, ambiphile ou scoliophile, c'est-à-dire une attirance pour les hominines mâles, femelles, les deux ou les trans et autres non-binaires. L'hypothèse privilégiée jusqu'à maintenant par la protivophilie est celle de sa pansexualité, une attirance pour les hominines, quel que soit leur sexe, leur genre ou toute autre considération, d'unique à unique.
Rien, le quatrième mardi du mois à 17h, le vendredi à 9h30, 104.1 à Saint-Hippolyte-du-Fort, 102.0 à La Salle, 103.3 de Ganges-Vigan.